c'est-à-dire avec deux gars. Et je vais commencer, je vais pas commencer de façon chronologique, je vais commencer de façon thématique, et puis comme d'habitude, je ferai un petit retour en arrière pour essayer de voir. Et on était sur le travail de deux gars autour des postures et des danseuses, et comment le thème de la danse et du mouvement lui permettait d'abord de saisir des corps dans l'espace. Et ça, c'est très important, cette idée de d'être dans... d'occuper l'espace. Et comme je l'ai dit, on n'est plus devant l'espace, on est dedans. Avec les impressionnistes, c'est quelque chose qui va se développer. On l'avait vu précédemment avec Bert Morisot. Et Degas va clairement vivre dans l'Opéra Garnier. Hein, je ne sais pas combien d'heures, de jours, de mois il a pu le passer. Et en occupant tous les lieux. Donc ce n'est pas devant la scène ce qui l'intéresse sur la danse. Autre chose, dans la danse, ce qui l'intéresse, ce sont des postures qui ne sont pas des poses. Hein, même s'il y a parfois des figures qui sont en arrêt, comme celle-ci en train de nouer ses lacets de ballerine, eh bien on est dans aussi un moment un peu justement de vérité, puisque on n'est plus dans l'artifice de la pose, et vous vous souvenez peut-être, je vous ai montré les peintures académiques du 19e siècle, où là au contraire, c'était des poses totalement stéréotypées. Non seulement les corps étaient stéréotypés, mais les poses des modèles, masculins ou féminins, et féminines encore plus, hein, étaient totalement codifiés et codés. Hein, le déhanchement, etc. Et là, vous avez des poses qui semblent vraies. Alors, c'est un peu comme le travail, d'ailleurs. Hein. On verra, d'ailleurs, que Degas aussi s'intéressera au travail. Quand Courbet fait des gens au travail, ou quand Millet fait des gens au travail, eh bien, vous avez aussi cette idée qu'on est devant un corps qui est à une posture qui est naturelle, donc plus intéressante, y compris plastiquement parlant. Alors, l'occupation de l'espace aussi, ça a l'air tout bête, mais regardez la composition de ces trois études, qui sont toutes différentes et très proches. Et c'est ce que, bon, enfin, moi j'appelle, on peut l'appeler, c'est une composition en Y ou en V. C'est qu'en fait, on a une oblique à droite, une oblique à gauche, à chaque fois systématiquement, cette ouverture comme ça. Et vous allez voir que c'est récurrent chez Degas et que ce n'est pas non plus un hasard. Hein. Ce qui donne l'impression qu'on peut aller à gauche ou on peut aller à droite du modèle. Hein. Nous aussi, on peut se déplacer. On n'est pas donc frontalement devant un modèle. Il y a d'autres
chaises.
Et ça, vous allez voir que c'est une des clés pour comprendre Degas. Enfin, pour comprendre Degas, pour appréhender Degas. Donc, ce décalage, alors, j'ai recensé, alors, parce que, en fait, je suis un peu boulimique d'image, pour vous mieux. Et j'ai recensé aussi, j'ai trouvé un site sur lequel il y avait une multitude de croquis d'études de Degas, donc je les ai un peu recensés. Je vous les montre ici, pour vous montrer aussi le travail d'observation, d'études. Cette quête un petit peu d'une certaine justesse auprès de postures et de positions qui sont totalement récurrentes. Et à chaque fois, selon le même angle de vue, dans une sorte de souci de perfection. Alors là, il y a quelque chose qui est intéressant dans celui-ci, c'est, vous avez vu, c'est les deux attitudes, hein, la mère et la fille qui attend sans doute pour une audition, hein, et la mère ici, alors, noir et blanc, inquiète, etc. Je ne peux pas m'empêcher de voir aussi les parallèles, parce que Degas est assez malin, c'est vrai de le dire. Vous avez le tutu qui est une sorte d'ouverture comme ça, blanche, etc., et le parapluie qui est une fermeture noire. Hein. Il y a aussi une question d'âge, d'ouverture, de fermeture, et cette idée de ouvrir hein, comme un éventail, on va voir aussi ce thème-là chez Degas, c'est quelque chose, cette espèce de mouvement comme ça, mais justement toujours en V et en ouverture, qui est typique de son art. Le décalage aussi de la composition. Puisqu'ici, vous avez une partie qui est quasiment vide, hein, et vous avez aussi cette espèce d'incitation à glisser vers la droite avec le sol qui est signifié par des planches hein, qui sont là en perspective oblique, au lieu d'être en perspective frontale. Je reviendrai là-dessus, puisque c'est récurrent chez lui. Et vous voyez ce que je vous disais, l'espèce de composition en V ou en pointe que l'on voit encore ici. Alors cette idée, justement, d'ouverture de l'espace ou des pieds ou des bras ou des tutus, c'est aussi quelque chose que l'on trouve dans toutes ces attitudes-là. Et voilà des études diverses hein, qui sont des variations justement autour du phénomène principal. On voit bien aussi le rapport que Degas entretient avec le croquis ou l'étude, puisque, et c'est aussi cohérent avec le fait qu'il est en train, il n'est pas devant une scène, il n'est pas devant une œuvre achevée, il est devant là aussi. On peut dire que les danseuses font des sortes de croquis d'études de pas et de mouvements. Donc là aussi, il traite des études par des études. Vous voyez, il y a corrélation, de la modification des pas ou des pieds sur son, sur sa feuille, sur son toile, sur son support, eh bien, évoque aussi les exercices et de danse. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, Paul Valéry avait écrit ce texte que je n'ai pas lu, hein, mais qui s'appelle « Degas danse dessin » et où il fait une équivalence entre le dessin de Degas sur le support et la danse qu'il représente, comme si effectivement son trait dessinait sur la toile ou le support. Alors le tutu, c'est quelque chose aussi qui l'intéresse pour ce qui est du flou, hein, et on le verra aussi. Alors Degas est aussi un très grand dessinateur avec une classique. C'est qu'il est, alors là vous voyez, là on voit un croquis un peu plus libre, mais il a des dessins qui sont d'une très très grande rigueur et anatomique, et de modelé, et de dégradé. Vous voyez même la mise au carreau, c'est-à-dire que Degas reste de ce point de vue-là pas du tout dans la spontanéité, en fait. Vous voyez que pendant un sujet, il va le traiter 5, 6, 7, 8 fois la même posture, c'est pour essayer de trouver la justesse. Puis, l'étude d'ombre et de lumière, l'anatomie d'une grande rigueur, et c'est aussi donc quelqu'un qui, parfois, donne l'impression d'être dans une sorte de virtuosité, de spontanéité, mais en fait, la plupart du temps, tout cela est très construit. Hein. Mais il veut donner dans les œuvres finales l'idée de mouvement et de vitesse. Et de vitesse, et donc d'être surpris, justement. Alors ça, j'aime beaucoup cette composition, c'est le lever de rideau, parce que c'est stupéfiant, on parle de composition. Hein, et je vous ai parlé plusieurs fois de la muralité, de la planéité ou de la profondeur. C'est-à-dire, parfois, certains artistes affirment la surface de leur support, de la toile, mais aussi la profondeur, le mur et la fenêtre. Et là, on a vraiment un jeu sur le plan, puisqu'on a le rideau qui est une surface que Degas a traité presque de façon non figurative, c'est des traces, c'est des plis, etc. Et tout à coup, on est surpris, on voit apparaître quelque chose qui est derrière le rideau, effectivement, avec ces danseuses qui sont déjà en position, toujours en oblique. Hein. Et puis vous avez un premier plan aussi très, on va le reprendre souvent, les archers des violons de la fosse d'orchestre, vous allez voir. On va, alors, vous allez voir chez Degas aussi, ça va être associé à un domaine masculin, premier temps, une sorte de machine qui va pour la musique, qui va être en dessous, une machine souterraine. Et ensuite, vous allez voir les danseuses qui vont être dans une sorte de monde un petit peu coloré et fictif, parce qu'on est, pas, on est dans une certaine magie, hein, de la lumière et des couleurs. À propos de la lumière, d'ailleurs, vous avez ici plusieurs lumières, des lumières différentes. Vous avez la lumière sur la fosse d'orchestre, vous avez la lumière sur la scène, vous avez la lumière sur le rideau. Ce n'est pas tout à fait les mêmes. La lumière de la fosse d'orchestre, vous verrez qu'on va y revenir souvent, c'est la lumière de la scène, c'est la lumière des feux de la rampe. C'est une lumière qui vient d'en bas, qui éclaire les corps par en dessous. Et vous allez voir que ça aussi, c'est quelque chose qui sera très important dans le rapport au sol. Hein. Et bien alors, c'est aussi une lumière qui n'est pas trop violente et qui va modeler aussi les corps, hein, qui va faire beaucoup d'ombres portées, qui donne là un très délicat modelé sur les visages et les membres, hein, et les bras des danseuses. Alors que là, vous avez quelque chose qui est sans ombre portée, sans modeler. Et là, on est quelque chose qui est dans la pénombre. Donc Degas, c'est aussi un très grand travailleur de la lumière. Ce que l'on voit aussi ici, c'est cette idée d'être surpris d'une révélation. On est dans un instant, le lever de rideau, donc c'est voilà. Il y a aussi cette idée de surprise. Prendre quelque chose qui n'est pas, c'est pas encore la scène, c'est pas encore le spectacle. C'est un peu une sorte de dire sur quelque chose qui débute, qui n'est pas achevé. Alors, cette composition si horizontale, il va le faire assez souvent. Ça aussi, c'est très original de sa part, hein. C'est quelque chose qui se faisait peu, sinon pour des grands panoramas. Mais là, vous avez effectivement l'intérêt de ces compositions horizontales pour Degas, c'est justement cette espèce de décalage, décentrage, parce que notre regard aussi balaye la surface. Hein. On n'est pas centré, on passe de la gauche à la droite. Comme on le voit ici, du fond au premier plan. Vous retrouvez d'ailleurs la même posture, hein, que tout à l'heure dans ses études. Et on va voir qu'il utilise ça assez souvent. Alors ça, je reviendrai sur ce type de composition, hein, puisque là, vous avez des jeunes danseuses, des jeunes danseuses, qui, justement, sont éclairées par en dessous, et vous voyez que le sol semble disparaître, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ombre au sol. Il n'y a pas d'ombre au sol, puisque la lumière vient du dessous. Donc, les corps semblent plus légers, ne semblent pas peser, parce que, effectivement, je pense que c'est un effet réel des éclairages de pistes de danse, c'est que si la lumière venait du dessous, les corps seraient cloués au sol par l'ombre portée des corps. Hein, quand on voit dans des matchs de foot, ils ont quatre ombres qui les suivent tout le temps avec les projecteurs. Mais au contraire, le fait d'avoir une ombre fait que le sol semble disparaître. Elle semble flotter et s'élever, non seulement par le mouvement, mais y compris par la lumière. Comme si la lumière les élevait aussi, les portait. Donc cette idée de légèreté, cette idée de mouvement, elle est travaillée de façon multiple. Alors le déplacement dans l'espace, et le déplacement de notre regard dans l'espace, ce type-là, des compositions très intéressantes, sur lesquelles on va glisser du premier plan à l'arrière-plan, en passant de la gauche à la droite, et puis on peut revenir avec des surprises, effectivement. Des moments aussi, vous voyez, saisis, puisqu'elles semblent surgir de l'escalier, elles surgissent de l'escalier, elles se préparent encore à danser, et vous avez, vous voyez, cette composition toujours en oblique. Vous avez là quelque chose, s'il avait mis le mur frontalement, parfaitement horizontal, ça aurait été beaucoup plus plat. Le fait d'utiliser l'oblique, le décentrement et l'oblique, que l'on voit très clairement affirmé ici, que l'on voit ici affirmé de deux façons, vers la droite et vers la gauche aussi, avec les lattes du plancher qui vont vers un autre point de vue. Et vous avez effectivement cette fameuse chaise sur laquelle je reviendrai, la chaise qui est aussi posée sur l'angle. C'est qu'au lieu d'être les deux barreaux face à nous, eh bien, il a fait pivoter en angle de façon à ce qu'il y ait encore une structure, on va dire, en V. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les perspectives avec deux points de fuite. Effectivement, pour simplifier, la perspective avec un point de fuite, quand on regarde le mur face à soi, un rectangle, et puis sinon, vous avez en fait ce qu'on appelle les points de distance, à gauche et à droite, qui désignent votre champ visuel, qui est à 90 degrés. À partir de là, on ne voit plus, et là, je commence à voir. Ça fait 90 degrés. Mon œil gauche, mon œil droit, et puis après, on ne voit plus rien. Donc, ça désigne aussi deux points de fuite, à gauche et à droite. Et on peut très bien construire des perspectives en allant vers la gauche, vers la droite. Ça, c'est un truc bête. Si je regarde là, j'ai un point de fuite en face avec un rectangle. Si je regarde vers le coin ici, j'ai au contraire l'impression d'avoir que des obliques. Et qui vont construire. Alors, je fais le cours de perspective vite fait. Le mur qui est à gauche ira vers mon point de fuite de droite, et le mur qui est à droite ira vers mon point de fuite de gauche. Et c'est très souvent utilisé en architecture, par exemple, pour construire une perspective plus dynamique et qui permet d'aller vers la gauche et vers la droite, de ne plus être frontalement devant un mur. Donc on glisse, et vous allez voir comment Degas utilise ça systématiquement. Et j'y reviendrai. Alors, dans les thématiques de Degas, il y a aussi, je vous ai dit, saisir des moments furtifs qui sont hors scène, un peu hors champ, montrer ce que les autres ne voient pas. L'envers du décor, par exemple, ici. Vous avez plusieurs fois, notamment ici, ces jeunes femmes qui sont derrière les coulisses, qui viennent de finir leur exercice de danse, etc. On voit même, c'est ce que vous racontez, le jeu sur la toile, la surface, aussi, et la profondeur, parce que là, vous avez une toile qui est montrée pour ce qu'elle est, c'est vraiment un décor plat, même grossier, brut. C'est l'occasion pour Degas de traiter presque en badigeon, effectivement, cette surface-là. Le jeu aussi sur les décors et les coulisses, c'est qu'on est dans la fiction, donc il traite ça de façon un peu barbouillée, parce que les décors de théâtre, souvent, de près, sont effectivement faits avec du badigeon, quasiment. Ça fait un effet avec la lumière, mais c'est une peinture qui est vite faite. Donc là aussi, il y a des choses qui sont très intéressantes. Et puis, vous voyez la composition toujours décentrée, oblique. L'idée que ces personnages sont en train de passer devant nous, ne font pas attention aux spectateurs, enfin aux peintres, et puis semblent sortir du cadre, au sens strict. Alors, il y a tout un jeu sur le cadre, et on le voit comment ceci est fait, assez souvent. Alors, chez Degas aussi, ce qui l'intéresse dans le spectacle, et chez les danseuses et l'opéra, c'est aussi des couleurs, c'est un grand coloriste, puisque les décors, les costumes, les lumières, on est un peu hors du monde, on est dans un monde totalement dédié à l'art, que ce soit la danse, que ce soit les lumières, que ce soit les postures, les corps, les décors, on est vraiment dans un univers presque décalé du réel, et on a vu que les impressionnistes avaient beaucoup travaillé, justement, étaient dans une tendance générale qui était de tourner le dos à tout ce qui était monde industriel, prosaïque, quantitatif, technique et matériel. Et là, on voit comment il tourne un peu systématiquement en s'enfermant dans une sorte de bulle artistique. Alors, Ici, dans ces salles de répétition, vous voyez très clairement, et c'est pour ça que je me permets de montrer, ces salles de répétition qui sont plus classiques du point de vue de la facture, hein, mais on voit déjà des pistes, c'est le cas de le dire, que Degas utilise, par exemple, dans cette composition, et vous voyez la chaise, délibérément mise comme ça en oblique, vers la gauche, on va vers la droite, donc elle l'ouvre aussi. Et à chaque fois, vous allez
vers la petite question avec oui. Intrigue. Pourquoi le monsieur a une cale?
C'est le maître de
ballet.
Rythme, comme ça, vous vous avez donc peut-être le musicien, le chorégraphe ici, et le maître de danse. Et vous voyez cette idée d'ouverture qui est récurrente chez lui. Il ouvre le champ visuel, et puis les danseuses ouvrent les jambes, ouvrent les bras. Cette espèce, c'est quelque chose qui, à chaque fois, donc, est parfaitement cohérent. Et puis on glisse vers la gauche, vers la droite. Hein, c'est fait de. C'est un tout petit bête, hein, mais vous allez vers la droite, et puis là, vous repassez vers la gauche, le pupitre permet d'aller là. Puis les jambes aussi nous réindiquent par là, et on repart par là. Donc une sorte. Et le centre, comme si on contournait le centre, hein, de façon très claire. Alors, c'est quelque chose qui est conscient souvent chez lui, hein, vous voyez, c'est ce décalage entre
les jambes. Le droit différent.
Et.
Ah, bah, c'est...
Comment qu'est-ce que vous dites?
La chaise
vide. Alors, la chaise vide, il y a un éventail.
Oui, il y a
un éventail.
Là,
vous avez encore le fameux éventail qui est aussi une ouverture. Hein, les pieds, hein, les jambes, les croisements, etc.
Et pour les gens qui sont fatigués.
Peut-être. Et puis, cette idée aussi subtile de sortir, hein, de ne pas être enfermé avec toujours l'image dans l'image. On ne sait pas si c'est un miroir. Dans le miroir, on voit une fenêtre. Vous voyez que chez Degas, il y a aussi une très grande conscience de ce que j'ai, la polarisation mur-fenêtre. Hein, mur-fenêtre, et puis ce que j'ai appelé la bascule du sol, c'est un sol qui semble un peu fuir sous les pieds. Alors d'ailleurs, la chaise ici, on voit, alors celle-ci n'est pas tout à fait en oblique, la femme est assise. C'est peut-être une mère qui attend, ou quoi, qui s'ennuie. Alors là, il a triché, parce qu'il a utilisé la chaise, il a fait, ici elle est frontale, là elle est oblique. Donc voilà, alors comme j'en ai beaucoup, je vais un peu plus vite. Alors l'éventail, justement, c'est quelque chose qu'il va utiliser assez souvent, sur lequel il va même lui servir de support, qui permet justement de démontrer aussi cette idée de mouvement, hein, et qui est aussi, que l'on va voir ici, porté par une spectatrice dans une loge, et je vais revenir sur cette idée-là de toute façon. Hein. Voilà le thème de l'éventail qu'on avait vu sur les chaises, que l'on voit ici. Donc, vous voyez, Degas explore effectivement, tout est relié de façon subtile. Et il y a aussi le mouvement, l'air, le déplacement, et puis l'éventail évoque aussi le tutu, etc. Et d'ailleurs, vous voyez cette espèce de décentrement, parce que justement le centre est absent, l'éventail, parce qu'il est justement lacunaire, c'est un vide. Et on va passer de la gauche à la droite, de la droite à la gauche. À propos d'ailleurs de gauche-droite, on passe plutôt souvent de la gauche à la droite, mais ça, dans l'art occidental, vous savez que c'est parfaitement logique, c'est lié au sens de lecture. Le sens de lecture gauche-droite, c'est quoi ? Le mouvement est en général de la gauche vers la droite. Ceux qui lisent des mangas parmi vous savent que les Japonais vont lire de droite à gauche. Dans l'écriture arabe, on lit aussi de droite à gauche.
Léonard de Vinci aussi.
Et voilà, Léonard de Vinci, il écrit de la main gauche aussi, mais effectivement. Donc cette idée d'orienter la lecture. Tant que les arts occidentaux étaient très centrés, la tradition renaissance classique, etc., et c'est une question qui se pose très peu, c'est centré. Mais dès lors que les artistes vont jouer sur le décentrement, hein, et bien ça va être aussi une autre manière de raconter, d'occuper l'espace et de donner cette sensation de mouvement. Comme par exemple l'éventail. Alors justement, l'éventail, voilà trois études proches et qui vont être travaillées sur. Alors, le point de vue, justement. Avec Degas, il y a très souvent cette idée du point de vue. Modifier le point de vue, trouver des points de vue originaux. Alors, dans les coulisses, sur le côté de la scène, par en dessous, par au-dessus, saisi, dans la salle de répétition, et évidemment, par exemple, dans la loge. Hein, donc, qu'est-ce que c'est? Et d'ailleurs, on ne voit pas. Regardez, au début, on voit le visage de la femme qui est dans la loge, et puis là, on ne le voit plus. Hein. D'ailleurs, si vous montrez ça au premier étude, parfois, on ne repère même pas qu'il s'agit d'une main. On devine à peine que ce sont des jumelles, mais on passe du premier plan, avec toujours cette idée d'ouverture, on glisse vers la droite, la main nous amène vers la gauche, et on zigzague. Suivez la flèche, zip, 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 zip. Il y a vraiment un mouvement comme ça qui permet de relier les plans qui sont très éloignés, et puis le point de vue, évidemment, le point de vue de la loge, les jumelles, effectivement, quelqu'un voit les autres femmes, elles sont vues par d'autres personnes, elles saluent des gens qu'on ne voit pas, donc Il y a aussi tout ce jeu très subtil. Et puis le travail sur l'éclairage, des lumières différentes, comme on voit ici. Et puis plus on va vers le fond, plus on va vers une certaine abstraction, avec les visages qui sont coupés, où les corps se fondent dans le décor. Alors ça, c'est quelque chose... Alors vous voyez aussi la différence entre ici une composition frontale... Ah zut, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah non, ah là, je spoil. C'est pas bien, ça. Voilà. Là, vous avez effectivement la loge qui est devant nous, l'éventail qui est, comme si on était devant un arrêt, et pouf, devant une scène. Alors par contre, le jeu du regard, puisque cette idée que notre regard glisse, ça fonctionne assez bien sur cette grande cour qui amène au regard ici, qui va suivre le regard là, etc. Donc, il y a quand même un travail comme ça sur la circulation de notre regard sur la toile. Donc ça, c'est quelque chose qui est très... récurrent. Alors, vous voyez aussi le salut, alors il y a plusieurs titres. Il essaie que vous avez aussi chez Degas des expérimentations, on va dire, picturales, parce que ces deux scènes ne sont pas traitées de la même manière. Une semble plus presque aquarellée, et l'autre plus précise, et plus précise au niveau du modelé, mais plus généreuse au niveau de la pâte, sans doute à l'huile, ou relevée au pastel, ou du pastel relevé de peinture, c'est un peu complexe. Mais vous voyez bien. Donc, si le point de vue qui est pris en contre-plongée, en plongée plutôt, vous voyez aussi la façon dont l'éclairage du sol fait l'éclairage par en dessous fait disparaître le sol directement, clairement. On a l'impression effectivement qu'elle vole, effectivement, et donc il y a une grande cohérence dans la posture, le point de vue, l'éclairage et la composition. Et c'est vraiment ce qui se fonde dans le décor. C'est l'occasion aussi pour Degas de montrer différentes manières de peindre. Le sol est traité presque de façon floue. Le décor a des grandes taches à chaque fois qui sont presque gestuelles. Donc, signe.
C'est son décor à lui, c'est pas celui du théâtre.
C'est le décor du théâtre.
C'est
pas Degas qui les faisait, mais il en est vraiment les coulisses et les décors du théâtre. Alors, on montre d'ailleurs, on est à un point de vue un peu privilégié, parce qu'on voit les gens qui se cachent derrière les coulisses. Donc, là, et puis le salut, où vous avez là une délicatesse extraordinaire du fondu. Presque sfumato à la Léonard de Vinci, le foulard, etc. Et puis, vous voyez le tutu qui, lui aussi, se confond avec le sol et la jambe qui semble n'avoir aucune pesanteur, comme une aile, comme une plume. Là encore, très grande cohérence où notre regard aussi circule, s'arrête, s'envole, se pose, etc. Vous avez quelque chose de très dynamique dans la manière de peindre. Donc, toujours quelque chose... Alors, je ne vais pas vous les montrer toutes, parce qu'il y en a, des tonnes. Et là, vous voyez, on ne sait pas si elles ont sauté ou si elles sont à genoux, sur le sol. Mais c'est avec Degas qu'on peut parler vraiment de bascule du sol. Quelque chose qui semble glisser. D'ailleurs, le fait d'être par-dessus effectivement donne l'impression qu'il n'existe plus, que les corps sont en l'air, d'ailleurs, regardez au sens strict. Ils sont à la partie supérieure.
Excusez-moi, qu'est-ce qui donne ce blanc si lumineux, on dirait de l'acré ajouté?
Alors là, par exemple, ça dépend de ces techniques, justement, parce que là, je pense que c'est presque non peint. Ensuite, je pense qu'il y a des rehauts au pastel. Il y a des rehauts au pastel, ou à la peinture à l'huile, très courante, puisque vous verrez d'ailleurs tout à l'heure dans ces... Ben, attendez, je reviens directement en arrière. Le travail sur la lumière de Degas est présent dès la première image que je voulais vous montrer. C'est celle-ci. L'idée de donner des sortes d'éclats de lumière, des éclats comme ça, par un rouleau de blanc sur un fond qu'on appelle mi-teinte, c'est qu'il distribue l'ombre et la lumière par des touches et des taches comme ça. Et c'est quelque chose que vous verrez aussi dans ces travaux, dans les travaux que je vais montrer après. C'est donc la lumière qui porte les corps. Alors, j'étais là. Ici. Alors celle-ci, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, parce que je ne la connaissais pas. Alors là aussi, c'est pareil. Juste un truc, ça n'a rien à voir avec Degas spécialement. Pendant des années, par exemple, les œuvres des peintres qu'on conseillait, moi quand j'ai commencé au lycée, pour avoir les diapositives, c'était presque toujours des diapositives des œuvres qui étaient dans les musées français. Donc on connaissait l'histoire de l'art à partir des œuvres qui étaient dans les musées français. Même les Matisse, les Picasso, etc. Mais pour avoir le jugement dernier de Michel-Ange, ou la chapelle de Sistine, il fallait aller au Vatican quasiment acheter les diapositives du Vatican, parce que sinon, Ou alors, il fallait faire ses diapositives soi-même à partir d'un bouquin, parce qu'on n'avait pas de documents. Hein. C'est un truc tout.
C'est bien d'aller au Vatican.
Et les deux gars, c'est pareil. Si tu étais dans les musées américains, etc., et bien, c'était très difficile de... C'est pas forcément reproduit. Maintenant, non seulement les collections particulières, plus les musées étrangers, presque tous se mettent en ligne. Ouais, et vous avez des reproduits. Et donc, j'ai encore découvert des musées la semaine dernière, hein, que je ne connaissais pas. Hein, donc, je pense qu'ils étaient dans des musées. Donc, si vous voulez, là aussi, l'histoire de l'art, elle peut être reconsidérée. Alors là, vous avez, vous parliez des postures des maîtres de ballet, des maîtres de danse, vous avez le chef de musique, etc. Et vous avez au premier plan les deux crosses de contrebasse ou de violoncelle, je ne sais pas, qui sont ici au premier plan, qui suggèrent un autre espace. Ouais, et on voit une scène de répétition, puisque vous avez celle-ci en train de répéter, celle-ci baille, et est en train de s'étirer, celle-ci aussi, hein, et puis là vous avez un travail, et on va dire plus classique au niveau de la facture, parce que la surface est traitée de façon plus homogène, mais chez Degas, vous avez toujours une grande intelligence, regardez les rectangles, ici, donc la frontalité, les obliques, les jeux de lumière, les passages d'espace, du premier plan discrètement ici par le noir. Et puis vous avez quelque chose chez lui qui sera assez présent, c'est le rapport masculin-féminin, qui est très dissocié. Alors, quelle est la dimension critique? On ne sait pas. Degas, parce que quelqu'un qui était relativement sobre, modéré, il n'est pas connu pour des excès de quoi que ce soit, c'est une sorte de père tranquille de la peinture apparemment, et sa vie au milieu des danseuses, etc. On ne peut pas l'assimiler au statut dont j'avais parlé quand on avait vu l'Opéra Garnier, qui était parfois assez effroyable, où les jeunes danseuses étaient des proies, hein, des objets sexuels, de la part des bourgeois qui venaient quasiment se servir dans les salons de répétition, etc. Il y avait une galerie presque prévue à cet effet. Là, on est autour du travail quand même, de la danse, et les postures de ces personnages semblaient, elles sont plus... vraisemblablement là pour le travail et on est en public. Donc. Mais c'est quelque chose qu'on verra qu'il va reprendre, le rapport masculin-féminin, où les hommes sont quand même toujours traités ici en noir et les femmes. Alors regardez, hein, ça c'est quelque chose, vous voyez, ça c'est une autre étude, sur la même scène, la même position. Donc Degas fait aussi beaucoup un travail d'atelier, c'est-à-dire qu'il y a des prises de notes et ensuite c'est reconstruit avec, vous avez vu, parfois ces dessins sont mis au carreau, donc. C'est aussi des constructions qui donnent l'impression d'être saisies sur le vif. Hein. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose... D'ailleurs, à gauche, c'est un travail de pastel qui est très fait, presque brouillon. Hein. Ça, c'est un peu plus travaillé du point de vue des ombres et des lumières. Et puis, le travail précédent semble être une sorte de synthèse des études précédentes. Avec la lumière des feux de la rampe qui vient de la droite et qu'on ne voit pas. Alors justement, le rapport masculin-féminin est traité de façon assez intéressante dans ces trois œuvres qui sont proches au point de vue du thème, puisque vous avez la fosse d'orchestre, hein, qui est toujours au premier plan, ici, en bas, et vous avez ici la scène. Alors ici, c'est le ballet de, je ne sais plus ce que c'est, Robert le Diable, tu vois, et ici, je ne sais pas quel est le ballet ici. Et ici, vous avez vu dans les deux premières, celles qui sont à gauche, on est dans une vision frontale, c'est-à-dire qu'on est avec des rectangles. Premier rectangle noir, un rectangle avec les têtes, un rectangle avec la scène. Et ici, vous avez aussi un rectangle qui désigne un peu le bas. Allez, je vais zoomer. Voilà, la scène en bas. Et puis ici, la scène, ici, colorée avec un espace sans profondeur, la lumière qui vient d'en dessous, et puis le lien qui est fait par les instruments. Le lien visuel qui est là pour signifier le lien réel, puisque la musique, c'est elle qui génère la danse aussi. Alors, cette idée que la musique est un peu la machine qui permet aux danseuses de danser, c'est elle qui va les porter aussi, comme la lumière. Hein, donc, ça vient de bas, ça les porte et ça les soulève. Et alors là, ça vient effectivement, les hommes, ils sont un peu réduits à l'idée d'un peu de machiniste. Hein, et c'est elles qui vont construire cette espèce de ce socle qui va porter les danseuses qui vont flotter, effectivement, dans un monde différent, hein, une sorte d'ailleurs, et comme s'il y avait une sorte de fonctionnalité, hein, ici genrée. Alors on le voit encore plus clairement dans celle-ci, celle de droite, et vous avez vu que Degas va introduire une légère oblique, puisque vous avez effectivement la loge ici, toujours une sorte de barque légèrement oblique. Alors je vais encore faire le même jeu que tout à l'heure, vous glissez vers la gauche, vous reprenez ici, je pense que c'est un basson, vers la droite, vous arrivez sur l'épaule du contrebassiste, vous arrivez à la nuque, et vous allez avec votre crosse d'avant-basse jusqu'à la scène qui est derrière. Si par hasard vous y allez vers la gauche, Eh bien, vous avez la main ici, le coude, vous avez le violoncelle, et puis vous avez ici la harpe, et chose très maligne, pour aller vers la scène, je zoome, ici, qu'est-ce que l'on voit ? Alors, c'est pas très bien, vous avez ici un spectateur qui nous ramène vers le centre. Donc là encore, vous avez toujours cette circulation qui passe du premier plan vers l'arrière-plan, et toujours cette idée du point de vue, qui voit quoi, voit où, etc. Et on ne voit pas les têtes des danseuses, qui elles ici, sont regardées par d'autres, que nous, etc. Avec le noir et blanc, la couleur, le modelé, hein, puisque vous avez presque aussi des aplats, le cadre ici, avec le jeu sur la chaise ici, le cadre ici des loges et du regard, et puis les obliques, les visages un peu austères, les gens qui sont en train de faire leur boulot, hein, qui sont sur des portraits, et puis les figures colorées, flottantes, floues des danseuses.
Donc, c'est-à-dire qu'on ne mélange pas les visages des...
Voilà, non, oui, c'est pas compris, il y a une sorte de... Oui, alors avec... Bon, c'est difficile d'interpréter ça d'un point de vue, on va dire, politique, sexiste, etc. Non, mais en tout cas, il y a une dissociation très claire.
Oui,
Et qui est vraiment très pensée. Alors juste un petit retour sur la formation de Degas. Hein. Degas, c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé que les impressionnistes. J'ai oublié sa date de naissance, mais il a dû naître avant 1840, vers 1835, etc. Il a une formation très classique. Hein. Donc, si vous voulez, l'écart de Degas dans sa peinture, et c'est même ses croquis avec ses formations initiales, se mesure par exemple dans ses dessins, où on voit que c'est, ils sont d'une virtuosité prodigieuse, hein, ils sont de Watteau, etc., sur les plis, sur les modelés, sur l'anatomie. Et vous voyez, il a été formé avec cette grande tradition du dessin, c'est de faire des rehauts de blanc sur le papier gris. Pour suggérer effectivement la lumière. On le voit ici, là. On est presque du Watteau. Hein. Et il y a compris alors, l'anatomie au niveau des chevaux, on sait que Degas va faire des chevaux, avec une rigueur prodigieuse. Alors, le drapé se transformera ainsi en tutu. Hein. L'anatomie, le mouvement sera surtout suggéré par le thème de la danse, mais c'est un très grand dessinateur classique. Alors maintenant, je reviens un petit peu, on a vu un petit peu le monde de la danse. Degas n'a pas fait que ça, hein, même si c'est l'essentiel de son travail. Et je voulais revenir sur cette peinture qui est une de ses premières connues et grandes. C'est le portrait de la famille Bellelli, B-E-2-L-L-I-E-L-I. Alors, Bellelli, j'écris B-E-2-L-E-L-I, 1862. Et vous avez ici un Degas, on va dire, qui semble plus classique. Hein, mais il n'y a pas cette ouverture vers la gauche et vers la droite. Mais si vous regardez bien cette peinture, c'est quand même tout un discours sur le plan, sur la surface, et sur les rectangles, y compris sur le noir et le blanc, et la couleur. Rappelez-vous, quand je vous ai montré avec Mercorizo, avec Manet, que c'est un des enjeux des ce qu'on appelle les impressionnistes, dans lequel on met Degas, c'est de réfléchir sur la surface du tableau, sur la composition en masse, et non plus en modelé, en profondeur. Si on supprime la profondeur, comment est-ce qu'on traite le tableau? Comment est-ce qu'on traite la surface du tableau? Comment est-ce qu'on l'équilibre? Si ce n'est plus centré, s'il n'y a plus cette espèce de trou perspectif vers le lointain, eh bien, comment est-ce qu'on joue pour occuper une surface plane, etc. Alors là, vous avez, chez Degas, plusieurs dialogues. Ici, beaucoup de choses. Tout un jeu d'abord sur les rectangles. Alors, les rectangles, celui de la table, celui de la cheminée, la glace. Dans la glace, vous avez une autre glace. Dans cette glace, vous avez la pendule. Dans la pendule, vous avez une sorte de fenêtre. Là, vous avez un cadre dans lequel il y a un cadre. Vous avez le cadre de la porte dans laquelle, etc. etc. Donc, vous avez une affirmation, une réitération de rectangle, de format rectangulaire qui sent écraser toute profondeur. Tous ces rectangles sont traités d'ailleurs en couleurs complémentaires, hein, bleu et orange, on va dire. Primaire, parce que là on est plutôt dans les couleurs pures, on va dire, y compris puisque vous avez donc un discours sur les couleurs pures, vous avez un discours sur le noir et blanc, puisqu'effectivement là vous avez, mais qui ne sont pas représentés comme des modelés, mais comme des surfaces. Et rappelez-vous que Monet, Manet, Berthe Morisot ont traité aussi le noir et le blanc comme des surfaces, etc. Et puis vous avez une chose aussi stupéfiante, ce sol qui est presque barbouillé, brouillé. Degas aurait très bien pu faire un tapis avec des motifs en perspective, et tout d'un coup, on est là, et il n'y a pas d'ombre. Il n'y a quasiment pas d'ombre sur ce sol, un tout petit peu au-dessus du fauteuil. Alors, le fauteuil, lui, est représenté en V, avec le seul personnage ici en volume, c'est le père. Est-ce que c'est parce que le père est plus pesant dans son fauteuil, dans cet espace en perspective, alors que tout le reste il semble flotter. Mais voyez comment Degas, dans ce portrait original, aborde des questions théoriques sur la peinture et de façon discrète. Hein. Ce n'est pas un manifeste, et il faut parfois faut s'en rendre compte pour l'étudiant pouvoir le voir. Alors, au contraire, dans cette peinture qui est aussi une peinture intéressante, qui s'appelle Un bureau de coton à la Nouvelle-Orléans, je pense qu'il est allé, je ne sais plus dans cette ville, c'était à la Nouvelle-Orléans, et là vous avez un univers masculin, deux noirs et blancs, effectivement, et vous voyez que la représentation de l'espace, il a totalement pivoté justement vers l'angle, puisque là, tout est vers la gauche ou vers la droite. Vous avez encore cette fameuse chaise ici, en V, que l'on va retrouver ici, et là vous n'avez quasiment aucune ligne horizontale, hein, vous n'avez quasiment que des lignes obliques, et on zigzague de la gauche vers la droite, de cadres dans des cadres dans des cadres dans des cadres, avec des transparences, des ouvertures, des fermetures, des boîtes, etc. Vous avez vraiment là encore un jeu. Là, il a mis de côté, on va dire, tout ce qui était coloré, mais vous voyez que c'est, ça constitue l'univers de Degas de façon très consciente. Hein. Et là, l'univers masculin, ce qui peindra peu plus rare. Alors, la recherche du point de vue aussi, de modifier les angles de vue, c'est quelque chose qu'il va faire dans l'espace horizontal. On a vu qu'il y avait des peintures aussi quand il voyait les personnes en plongée, hein, du haut d'une scène, ou en contre-plongée. Celle-ci est assez connue. Et le titre, c'est Miss Lala au Cirque Fernando. Miss Lala au Cirque Fernando, alors c'est le cirque d'hiver, hein, qui était tout récent hein, à l'époque. Là encore, un lieu dédié au mouvement et à la légèreté. Hein, l'opéra, mais aussi le cirque. On est quand même là encore dans une sorte de spectacle où il y a des points de vue originaux, hein, c'est le cas de le dire. Et ici, cette mise-là, justement, qui s'élève par la bouche, sa mâchoire, avec une sorte de cirque, une sorte d'acrobate, etc. Et là aussi, vous avez le décentrement, on ne voit pas le centre de l'architecture. Vous avez une architecture qui est presque vue comme un graphisme, plus que comme un volume. Vous avez peu d'ombre, hein, peu d'ombre propre. Et mise-là, ici, qui semble effectivement s'envoler. J'ai réalisé, tout bêtement, cette œuvre, je la connaissais, je la montre tous les ans, etc. J'ai réalisé par contre que Miss Lala était une femme noire, hein, ce que j'avais jamais vu dans la peinture, ce qui se voyait beaucoup moins dans la peinture ici précédente. On pense à un effet d'ombre, de lumière, etc. Par contre, dans les croquis, on voit effectivement qu'il s'agit d'une artiste noire, et il a fait plusieurs croquis de Miss Lala, etc. Donc c'est un truc tout bête, mais dans la présence de la figure noire dans la peinture, il y a une exposition que je n'ai pas vue au musée d'Orsay, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant. Alors là, vous voyez aussi ça, alors le travail d'étude, hein, on comprend bien la façon dont c'est construit, vous voyez la mise au carreau, hein, puis ensuite la structure et la composition ici. Et d'ailleurs, là, on dirait qu'il y a des collants, hein,
et les plis.
C'est plus ambigu. Alors, au niveau des couleurs, vous voyez que quand Degas traite l'espace, sur la famille Bellelli, on était dans les jaunes et bleus. Là, on est dans les verts et rouges, hein, des couleurs qui sont, on va vers les couleurs pures. Donc, à sa façon, Degas aussi fait un travail impressionniste hein, sur la touche, sur l'instant, sur le cadrage, sur les couleurs, sur les rapports de noir et blanc, sur la surface. Mais si vous voulez, il y a très peu d'extérieur. Hein. Les impressionnistes, le paysage, Degas, on verra très peu d'extérieur. Il y en a, mais ce n'est pas forcément ça qui l'intéresse. Hein. C'est vraiment la question de cadrage ou non. Alors, voilà. Les chevaux, évidemment, ça aussi, ça sera une de ses passions. C'est le mouvement, c'est la construction dans un espace particulier, c'est aussi des corps qui ne mentent pas, hein, puisque là, on peut dire que la cheval, on ne va pas lui demander de poser, enfin, si on pouvait, mais c'est pas tellement si on arrive. Et vous voyez aussi le décentrement remarquable, hein, et ce mouvement vers la gauche, vers la droite, et hop, on repart vers ici, là encore, hein, c'est de déséquilibrage et une composition presque abstraite, avec une grande ligne effectivement verticale. Ici, vous avez presque le point du soleil qui occupe presque un tiers presque du tableau ici, hein, et des zones entières. Il ose ce décentrement systématique avec des compositions aussi comme celle-ci, avec le cercle des roues, hein, et là encore, un décentrement total. Et le paysage lointain, etc. Là, c'est aussi l'influence de l'art japonais. On a vu ça chez Bert Morisot, chez Marie Cassatt, qui était une amie de Degas. Vous avez vu que Degas fait des portraits de Bert Morisot. Donc l'influence japonaise aussi sur le graphisme, sur le décentrement, sur le point de vue, sur les aplats. C'est quelque chose que l'on peut aussi percevoir.
Sur l'éventail aussi.
Et sur l'éventail, bien sûr. Voilà, toutes ces thématiques-là, ce sont des thématiques, et ils étaient tous, ils se connaissaient. Hein, et donc, si vous voulez, le travail de Kamakura pouvait intéresser Degas, réciproquement, etc. Van Gogh était japonisant, par certains côtés aussi.
Ils n'avaient pas besoin de réseaux sociaux.
Non. Ils avaient les... Et on verra, Monet, un des plus grands collectionneurs d'art japonais, etc. Donc, vous voyez, ce sont aussi des influences. Alors... Regardez justement deux peintures, l'une de Degas et une de Manet, qui sont très proches dans le temps et dans la thématique. Et le regard sur le corps féminin est varié aussi. Il déconstruit un peu les stéréotypes. Puisque on a vu Manet, par exemple, avec la serveuse de boc, avec la serveuse de bas, etc. On a vu Courbet aussi, qui changeait un peu le regard sur les femmes. Les femmes artistes, évidemment, qui se peignent en autoportrait ou entre copines, etc., entre amis, dans leur monde. Donc vous avez aussi des artistes qui essaient de changer le regard, ou qui déplacent le regard par rapport au corps stéréotypé et aux images, aux postures stéréotypées. Alors par exemple, ces deux figures de femmes, justement, un peu paumées, qui sont en train de boire tantôt d'absinthe, tantôt de prune, qui semblent chiffonnées et brouillées, quelque part, dans leur propre monde, et un peu lasses.
Mais le compagnon n'est pas sale.
Et il regarde d'ailleurs, et il n'est pas flatté.
Il n'est pas flatté, non.
Et on peut comprendre qu'elle est. Et vous voyez l'usage que met Degas de façon absolument géniale sur le décentrement, le zigzag des tables. Puisque là, on glisse à la gauche, on glisse à la droite, on reglisse là. On arrive là, on a déjà mal au cœur. Et il y a l'absinthe, et le visage brouillé, si vous voulez. Donc, et comme la petite prune ici. Elle semblait presque s'affaisser dans un réseau très orthogonal. D'un coup, choc, il y a l'oblique qui semble. Elle lâche quelque chose. Le corps un peu rose semble un peu tenu. Et vous voyez là, comment ces artistes vont travailler la composition de façon très subtile, très différente. Ils se connaissaient. Et une exploration sur l'espace à chaque fois. Comment est-ce qu'on occupe l'espace. Et ces peintures sont assez remarquables. Alors, le côté chiffonné, brouillé, en même temps sensible, c'est un vrai portrait, très délicat. Alors par contre, je confesse une chose, c'est que j'ai fait le lit procus, ça m'arrive parfois pour les peintures, quand je fais mes petits trucs, sans faire gaffe, je déforme pour les faire rentrer. Et là, c'est un peu trop étroit, un peu plus large. Donc elle est un peu moins fine que ça. C'est légèrement déformé. Donc, si vous regardez. Et vous voyez ici la virtuosité de Degas, y compris, comme je dis, sur le geste. Patte, comme ça. Là, on a l'impression quelque chose qui est badigeonné. Jof, c'est fait virtuose. Et puis, comme il ralentit sur le visage avec une finesse, une observation absolument prodigieuse. Et vous voyez aussi que dans sa peinture, ce qu'on avait vu chez Bergourizeau, ce qu'on a vu chez d'autres artistes, l'introduction de la ligne et du dessin. On voit l'influence japonaise aussi. Regardez, ça, c'est du trait. C'est du trait, ce qui était considéré comme totalement inconcevable dans la tradition classique. Puisqu'on ne faisait pas les contours. Le dessin était à l'origine, mais ensuite, on faisait disparaître le dessin par la lumière, par les contours, par les modelés, etc. Là, vous avez quelque chose qui semble se libérer de ce dogme qui dissocie le dessin de la couleur, de la peinture, puisque Degas le fait allègrement, ici, en laissant apparaître la ligne et le contour dans presque toute son vous voyez, y compris, et ici, là vous avez les journaux, ce sont des grandes, vous savez, les tiges qui entourent les journaux. Donc cette idée de liberté aussi, de la manière de faire, fait qu'on associe aussi Degas aux impressionnistes, parce qu'on n'est pas dans, vous voyez, le contrôle de toute chose. Alors, chez Degas, on trouve aussi ce thème qu'on avait vu chez Bergourizeau, chez... Cléopatra Gambogi, là je vous le dis, Elin Gambogi, Cléopatra, la finlandaise, et presque toutes ces femmes qui apprennent sur le blanc et le linge, eh bien Degas aussi va faire des séries sur ces repasseuses ou ces lingères, sur lesquelles justement par rapport à ce que vous disiez, on trouve la question du blanc. La question du blanc, la question aussi, le corps qui ne ment pas, ben, c'est le corps qui danse, avec le corps des chevaux, mais ça peut être aussi c'est les femmes qui travaillent, les gens qui travaillent. Et ça, c'est un thème qu'on a vu chez Courbet, chez Millet, un petit peu moins chez Corot, etc., chez Daumier, et là aussi, hein, il va chercher des sujets ailleurs que, on va dire, dans l'académisme, puisque effectivement, bah, les lingères sont considérées comme des femmes qui n'ont pas droit au chapitre, sont non vues. Souvent d'ailleurs, elles sont dans des endroits totalement clos. Hein. Les buanderies, les lingeries, etc., sont des sous-sols que personne n'a visités, qui crèvent de chaud, de chaleur et d'humidité. Et vous avez là, on voit bien cette fatigue aussi, hein, de ces visages épuisés, et le travail sur le blanc et la surface que Degas traite ici admirablement. Et là, vous voyez ce jeu aussi de contre-jour où la silhouette est presque en ombre chinoise. Alors là encore, c'est de ma faute, j'aurais dû un peu écraser, ça doit être un peu étalé. Et puis, la femme qui boit aussi, hein, parce que la chaleur, etc., bah, une grande bouteille de vin. Alors, il y a des préoccupations, alors Degas ne dénonce rien, il montre, hein, on la voit simplement en train de se désaltérer avec une bouteille de vin, mais on a ça chez les Zola, hein, la saumoire, etc., ce genre de choses qui sont... Alors, chez Degas, c'est pas une protestation sociale, c'est aussi les sujets qui intéressent, on va dire, l'artiste, parce que ce sont, picturalement, ce sont des scènes intéressantes, mais vous voyez qu'à chaque fois, il montre des scènes comme si les sujets ne le repéraient pas. Il se fait très discret. Hein, il fait en sorte que les scènes qu'il représente soient les plus vraies possibles, donc en l'absence de tout regard. Alors vous voyez qu'aussi, comme pour les danseuses, une même scène, elle est travaillée. Hein, tout en semblant être saisie sur l'instant, on voit bien qu'elle est parfaitement composée, travaillée, étudiée, même la bouteille, le mouvement de baille, hein, de bailler. Chose assez drôle aussi, c'est que cette femme qui lève le bras, on a vu des danseuses aussi faire ceci. Donc c'est des choses qui sont communes. Les recherches de couleurs, le travail sur le dessin, qui sont communs. Les chapelières aussi, c'est très intéressant, le travail sur les chapeaux. Hein, là, ce sont presque des touches de couleurs. Les scènes surprises de façon intéressante. Celle de gauche est très maligne, puisque cette femme se regarde dans un miroir, on voit le dos du miroir, on ne la voit pas elle. Les murs et les motifs décoratifs des tapisseries, on a vu ça chez Marie Cassatt, hein, le jeu joue aussi les motifs, et puis un univers féminin très varié en fait, chez Degas, puisque ça va être les danseuses, les travailleurs, les travailleuses, les femmes qui sont ici dans leur monde, effectivement des modistes, soit travailleuses, soit clientes, et puis des compositions aussi dynamiques avec les ronds, les touches de couleurs comme ça, et les obliques qui permettent comme ça de circuler dans le tableau. Alors, Degas va aussi, moins que d'autres que l'on verra tout à l'heure, mais il va le faire quand même, c'est aller vers d'autres types de scènes, puisque l'Opéra Garni, on a vu, c'est comme une sorte de grande messe bourgeoise, voire post-aristocratique de cette bourgeoisie qui met en scène, c'est-à-dire qui invente un nouveau code de distinction, qui n'est plus l'aristocratie, la religion, mais qui est cette espèce de cathédrale, hein, dédiée à un art et à certains privilégiés, avec tout ce qu'il peut y avoir aussi de presque religieux, sacré et en même temps profane, se montrer aussi soi-même, la mise en scène d'une classe sociale. Alors, dans le même temps, vous avez aussi, on va dire, un art de la scène qui se développe strictement périphériquement dans Paris, notamment au nord, c'est les cabarets. Les cabarets, là, on est dans les endroits, soit les mêmes bourgeois qui, de temps en temps, vont se montrer à l'opéra, vont s'encanailler, mais vous avez aussi le peuple parisien qui, là, fait la fête dans un autre type de lumière, dans un autre type de musique, dans un autre type d'espace. Alors ça aussi, ça intéresse Degas, parce que dans la scène, comme par exemple le Café des Ambassadeurs ou d'autres, les danseurs, les danseuses, les chanteuses sont beaucoup plus proches. Hein, y a plus cet esprit. On est vraiment là, dans le même espace que la scène. Hein, y a une proximité, y a une intimité qui fait que on le sent dans ses œuvres et dans ses peintures. Et puis il y a des postures, il y a des corps qui sont aussi beaucoup moins codifiés, puisqu'on va se retrouver avec des hommes et des femmes, et avec tous les traits, qui sont aussi, n'ont pas le physique des jeunes danseuses de l'opéra. Alors vous retrouvez aussi par contre quelque chose que Degas apprécie, c'est la lumière qui vient d'en dessous, la frontalité, le premier plan avec les motifs qui derrière vont affirmer le plan, derrière ici, une succession extraordinaire. De bandes verticale, et tout d'un coup qui vient surgir un corps avec tout, qui ont pris la sensualité, la présence. On voit les narines, on voit la bouche ouverte, on voit les yeux, c'est-à-dire que tout d'un coup quelque chose de très, très sensible. C'est tout un corps abstrait. Et puis, là encore quelque chose de génial, c'est le sorte de contre-jour noir, hein, l'utilisation du noir et du blanc comme couleur. Alors, là encore, vous allez retrouver les mêmes types de scènes, alors différents, moins ordonnés, moins codifiés. Là, vous voyez, les chanteuses et danseuses s'adressent directement à quelque chose de plus vivant, des choses surprises. Et là, des couleurs beaucoup plus bariolées, beaucoup plus vives, beaucoup plus lâchées. Ce relâchement, c'est aussi un des... C'est quelque chose qui est cohérent avec l'univers impressionniste et qui effraie un petit peu tout ce qui est académique. Puisque je l'ai répété, cette idée de maintenir justement toutes les énergies, c'est typiquement, on va dire, académique et bourgeois, tout ce qui se relâche fait peur. Donc le relâchement, y compris des mœurs, de la main, du geste, etc., c'est des choses qui, globalement, sont plutôt inquiétantes pour une classe dominante et semblent en même temps exprimer des énergies primaires. Et y compris, on va voir la sexualité de façon très claire. Alors, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais il faut quand même se souvenir que les impressionnistes sont dans un monde où la photo se développe. Et la photo, c'est le cadrage, c'est le point de vue, c'est la lumière, c'est l'espace, c'est aussi témoigner d'un moment vrai, puisque vous captez, c'est l'empreinte d'une véritable lumière à un véritable moment dans un véritable lieu. On n'est pas du tout dans la fiction. Et si vous voulez, les impressionnistes, en fait, dialoguent avec le monde photographique. Degas, d'ailleurs, sera aussi photographe. Hein. C'est des choses. Mais justement, ils vont montrer qu'en peinture, on peut continuer à traiter l'instant, le mouvement, l'espace, le cadrage, le point de vue, puisqu'effectivement, les appareils photos vont être de plus en plus mobiles. Alors, au début, c'est comme des grosses boîtes, etc. Et les peintres vont se dire, nous, on n'a pas besoin de travailler une grosse boîte, on peut, avec notre carnet de croquis, on est presque plus libre qu'un appareil photo. Puisque tic-tic-tic, on peut diriger le regard vers en bas, vers à droite, etc. Et on va mettre aussi des choses qui ne sont pas dans la photo, la matière, le geste, la couleur, le cadrage, etc. Vous avez donc... Et puis les appareils photo de l'époque suggéraient quand même des pauses, parce que c'était long. Là, l'artiste avec son croquis, lui, est capable de faire encore des choses que l'appareil photo ne peut pas faire. Le mouvement, l'appareil photo ne pouvait pas le faire encore, puisque un temps de pause étant long, tchouf, on avait du flou. Si vous voulez, vous avez une sorte de dialogue intéressant, photographie-peinture, qui se développe. Hein, et on verra aussi, on a vu avec Monet, avec Marie Cassin, par exemple, c'est aussi la dimension. Hein, puisque la photographie, que ce soit daguerréotype ou les premières photos, sont petites. Hein, tandis qu'un peintre, lui, peut aussi s'étaler dans la surface. Et c'est aussi pour ça le travail de surface. La photographie, on peut dire, ne travaille dans un premier temps que la profondeur. Tandis que le peintre, lui, peut vraiment travailler la surface. Et donc, les peintres vont se donner cœur et joie au travail de surface. Alors, le point de vue aussi sur le corps, c'est un point de vue qui est varié, et Degas va aussi faire des séries entières de ce qu'on appelle les femmes à leur toilette, soit sous forme de croquis, soit sous forme de pastel assez élaboré, sur laquelle, alors ça semble effectivement, par rapport à un nu qui n'a plus aucun prétexte, hein, ce ne sont ni des Vénus, ni des esclaves, ni des femmes dans des harems, etc., ni des allégories. Ce sont vraiment des scènes intimes qui sont partagées avec ces femmes qui acceptent d'être croquées, hein, au sens du dessin par l'artiste qui est là. Hein, et vous avez donc des moments un peu de vérité et d'intimité dans lesquels on va redécouvrir des corps dans des attitudes aussi qui ne mentent pas, qui ne sont pas du tout des poses stéréotypées. Et, alors, attendez, c'est bon. En fait, on va les voir sur fond, en diaporama, parce que là, c'est un peu trop petit. Et vous avez aussi ce travail sur le dos, hein, le dos qu'on représente rarement, en général, on faisait face. Le dos aussi qui est vu comme une sorte de surface qui s'anime par une lumière rasante. L'autre chose qui intéresse Degas, c'est le tube. Ce qu'on appelle le tube, c'est la bassine, hein, qui a un rond, qui impose une composition aussi. Au lieu d'être en profondeur, vous avez aussi des vues en plongée. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'horizon, hein, on voit presque le sol, et presque des cercles, des grandes compositions presque géométriques, le bras vertical, l'oblique de la tablette ici, le cercle, etc., du tube, des choses qui vont. Et puis alors, le travail anatomique prodigieux sur le corps qui construit un volume aussi. Ça semble un peu bête, mais les corps académiques qui posaient auraient presque pu être découpés. C'était presque des silhouettes. Il semblait avoir peu de volume, peu d'ombre propre, peu de modelé. Ils ne construisaient pas la profondeur. Chez Degas, les corps construisent la profondeur. Les danseuses sont qui se replient, qui nouent leurs lacets, qui écartent les bras, etc. Là aussi, les femmes à leur toilette, hein, en se pliant, elles construisent un volume plus complexe que la silhouette du corps. Alors, il l'a fait très souvent. J'ai trouvé encore sur le site de Degas plein de dessins que je ne connaissais pas. Il en a fait des dizaines et des dizaines. Hein. Il y a très vraisemblablement aussi, est-ce qu'il y a une part de commande érotique, voyeurisme, etc. Alors, ce n'est pas un voyeurisme, on va dire, très clair, puisque il semble qu'il y ait quand même une complicité avec la personne qui accepte d'être croquée dans le bain, etc. Mais on retrouve à chaque fois les mêmes éléments et des postures qui sont un peu surprenantes. Alors, et là encore, en voilà beaucoup. Alors, il les a fait très souvent. Hein. C'est pas là aussi, c'est comme pour les postures des danseuses, il y en a énormément. Il y a même des photos. Et par contre, je ne pense pas qu'il les ait exposées. Je pense que c'est
ça. Justement, je pense à ce que vous nous disiez, que le nous n'était pas apprécié par l'académisme de l'époque.
Voilà,
il a fallu faire appel au harem pour pouvoir le faire.
Tout à fait. Et donc, si vous voulez, toute cette, je pense que ces travaux n'étaient pas exposés, étaient des collections personnelles, où étaient des études, etc. Donc là aussi, ceci, c'est à voir. Mais il est dans ce travail de l'intimité, femme à leur toilette, femme au lever, qu'on avait aussi chez Berthe Morisot, chez Marie Cassat, avec un plat sur le nu, avec des corps qui ne sont pas des corps non plus de jeunes danseuses, qui sont des corps de femmes, on va dire, mûres ou normales, qui sont plus des jeunes, etc. Hein, vous avez ici quelque chose qui est aussi original de ce point de vue-là. Alors d'ailleurs, voilà une photo hein, de Degas. Une photo de Degas. Et là, on a fait plusieurs. Et là, une étude de femme à sa toilette en train de s'essuyer, etc. Et il va faire aussi même des sculptures, hein, que l'on verra plus tard. Alors, le rapport de Degas à la photo qui vous en parlait, vous voyez, ça, c'est les photos de Degas, les croquis de Degas, et les peintures de Degas avec, regardez, un travail qui est proche. Donc, en fait, on voit que c'est aussi toute une construction, ce sont des études sur la lumière, à transposer, trouver des équivalents, etc. C'est un travail de recherche. Alors, la sculpture, ça aussi, c'est quelqu'un comme Degas. Alors, je crois qu'il y a une expo, je ne l'ai pas vue, Degas et Rodin. Parce qu'en fait, Rodin va sculpter des corps aussi en deux danseuses, il va être fasciné par la danse dans ses croquis. Et Degas va aussi, ils sont presque contemporains. Degas est plus jeune que Rodin, mais Rodin est né en 19, donc, ou en 18, en 19. En 19, Rodin, puisqu'il est mort en. Non, Rodin est né en 40 en fait, aussi. Donc, 60. Oui, c'est ça. Donc, Degas, Rodin, à peu près sont de la même génération. Et eux aussi, hein, il y a des points communs, il y a des croisements comme ça, hein, sur des thématiques qui sont assez proches. Et quand on regarde les sculptures de Degas sur cette femme qui se prend le pied, etc., eh bien, on est très très proche des pratiques de Rodin, y compris, avec les traces de moulage. Les traces ici de terre, le bronze aussi, où il va assumer l'idée que le corps n'est pas lisse, des postures qui sont des postures naturelles, des points de vue originaux, des corps qui semblent saisis comme ça, dans la vérité, pas du tout dans l'artifice, etc. Et même, regardez les sculptures ici de Degas, où une femme sortant du bain, hein, en haut, et une femme aussi dans le bassin, ou Degas aussi, alors c'est compliqué, mais on verra plus tard, avec très bientôt d'ailleurs, avec Camille Claudel, la question du socle, la question du sol. Puisqu'ici, ce sont des sculptures sans socle quasiment, puisque tout à coup, elles sont posées par terre, notamment le tube, comme si le tube était lui-même la scène. Hein, avec cette idée aussi assez drôle, la scène et le socle, ou le fauteuil qui devient le socle, ici. Hein, et là, on verra ça aussi chez Camille Claudel, des choses qui sont assez proches. Donc, vous avez des recherches presque théorique, hein, sur le sol, sur l'espace, sur le corps, hein, le corps dans l'espace, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, évidemment, la sculpture de Degas, qui est très célèbre cette fois-ci, qui même a paru scandaleuse par certains côtés, qui a pu être en cire, en bronze, etc., et cette jeune danseuse habillée d'un véritable tutu, hein, et de véritables nœuds dans les cheveux. Et ce qui est assez... Alors, en effet, des réalités, elle est au musée d'Orsay. Hein.
Ouais. Et elle a été coulée après.
Oui,
c'est d'abord
c'est
la cire de son vivant.
Voilà.
Et après,
en cire, il y avait un effet de réel encore plus saisissant, justement. Alors, cette sculpture qui semble figée, et puis dans le temps, mais elle est quand même dans son monde, hein, parce qu'elle a les yeux clos, elle regarde ailleurs, tendue comme ça, les pieds effectivement ouverts, une tension intérieure très belle, et puis vous voyez l'utilisation du tissu, ici du cutu et du nœud dans les cheveux, est presque à rapprocher du dessin d'origine, du travail d'origine, où effectivement vous avez des effets qui sont purement picturaux, et puis il y a des effets de réel que l'on va voir aussi, c'est dans la précédente, où là encore, le tutu et le ruban, tout à coup, semblent faire surgir le corps de cette espèce de matière qui est le papier, le support, etc. Alors, ensuite, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça, je reviens. Alors, la petite danseuse de l'opéra est remarquable de vérité, de force, d'intimité aussi, hein, puisqu'elle est vraiment dans son monde. Et là, c'est aussi quelque chose qui est très fort chez Degas, c'est comment suggérer le mouvement sans forcément le montrer dans son déploiement. Puisque la tension interne du corps, hein, ses épaules en arrière, la tension de ses bras, ses mains aussi, ses pieds, montre aussi un corps dédié au mouvement, même si elle n'est pas forcément en mouvement, elle est au repos. Mais c'est aussi souvent ce que l'on voit dans les dessins de Degas, les jeunes danseuses en train de se préparer, etc. Vous avez, au niveau anatomique, quelque chose qui est remarquable. Alors, et puis alors, elle n'est pas tout à fait à l'échelle 1, mais enfin, on n'est pas loin d'une sorte de face-à-face, et là encore, quasiment pas de socle. C'est-à-dire que c'est une dimension que l'on verra aussi chez Rodin avec les bourgeois de Calais, évidemment, c'est la disparition du socle. C'est-à-dire que la sculpture, on est dans le même espace que la sculpture. La sculpture n'est pas dans un espace dédié, ni dans un espace, si vous voulez, suggéré, ou elle n'est pas dans un ailleurs. On est vraiment dans le même espace que la sculpture. Donc ce rapport aussi du spectateur à l'œuvre, on l'a dans la peinture, y compris parce que vous avez vu que le peintre fait comme s'il était dans l'espace, hein, qu'il est en train de représenter, et ça va aussi sur le spectateur qui est, du coup, pas devant l'œuvre, mais presque dans le même espace. Enfin, être dans le lieu. Degas va faire aussi des maisons closes, hein, des intérieurs de maisons closes, comme si, où là vous avez des corps très différents, des postures très différentes, une crudité, et là encore une sorte de vérité qui semble, on n'est pas loin d'un certain expressionnisme même, hein, on est avec là un monde, hein, qui est bien à part, hein, de la même manière que l'opéra voulait être un monde à part, à chaque fois vous avez un lieu et des corps un peu spécifiques, une sorte de dialogue entre le type de lieu, la nature du lieu et la nature des corps qui y sont, les repasseuses, les danseuses, ou ici les prostituées dans les maisons closes. Et on va voir alors cette espèce de brouillon aussi, quelque chose qui semble impossible de rendre gracieux ou beau, c'est comme si on était à une certaine trivialité, y compris du rapport, hein, et des lieux. Parce que là, on dirait que Degas ne réussit pas à en faire quelque chose d'élégant. Degas, quand même, comme prémonition, regardez ses œuvres, là. C'est assez remarquable parce qu'il a fait peu d'œuvres de paysage. Mais, à gauche, vous avez deux scènes de cavaliers sur la plage de Degas, qui datent de 1865, anciennes. En haut, vous avez un Gauguin, 1902, Picasso, 1906. Vous voyez, si on vous... Je vais agrandir un peu quand même. On est très proche, très proche au niveau des situations, des scènes, voire même des couleurs, hein, de ces scènes-là. Gauguin admirait beaucoup Degas, hein, c'était un des artistes qu'il préférait le plus. Picasso ne disait trop rien, mais il avait sans doute dû voir. Vous voyez aussi que là, il y a des rencontres, hein, il y a des préoccupations qui sont un peu proches. Alors il y a cette idée aussi quand même d'une certaine liberté à chaque fois. Hein, ça s'exprime par le mouvement, par la nature, par la liberté, y compris dans la façon de peindre, et cette façon de peindre le paysage par grande touche. La pie décor presque nu sur les chevaux, comme on le voit ici, en marmodie, hein, et on le voit chez Picasso, et on le voit chez Gauguin. Donc, on a encore des préoccupations qui sont significatives. Alors, quelques paysages de Degas qui sont rares, alors que je les ai trouvés récemment, je ne les connaissais pas. La plupart d'entre eux, je crois que sont à Fécamp. ça c'est assez marrant aussi, parce que Degas ne cherche pas le spectaculaire romantique. Il n'a pas cherché les vagues, il n'a pas cherché les côtes découpées, il n'a pas cherché les couchers de soleil, etc. C'est le paysage à marée basse, c'est-à-dire que moi c'est souvent ce que je préfère, c'est la mer s'est retirée, on voit cette espèce d'entre-deux, hein, et on voit surtout des surfaces aussi. Il y a très peu de volume, si vous regardez bien. Hein. La surface du ciel, la surface de l'eau, la surface du sable, hein, qui sont des lumières, et qui sont aussi quand même hein, des lieux où on n'est pas devant, on est dedans, là encore. Parce qu'on ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça finit. Et ce sont des études, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Et c'est là où on voit quand même tous les à côté du travail de Degas. Quand il se concentre sur la danse, il a aussi tous ces univers à côté. Hein, et on voit qu'il aurait pu choisir d'autres pistes hein, que celles de la danse. Et donc là encore, on comprend mieux en regardant ce qu'il était capable de faire autour, hein, comment est-ce qu'il a réussi à concentrer presque toutes les problématiques artistiques dans les scènes de danse, etc. Alors là, c'est ici aussi, vous regardez le sol. Ah, parce qu'en plus, la marée basse, c'est un sol qui est mouvant, qui est éphémère. On n'est pas dans quelque chose que l'on peut construire, arpenter ou dompter, puisque c'est là aussi, on est dans l'éphémère. Puis il y a le mouvement hein, des vagues, le mouvement de l'eau, le mouvement du ciel, les nuages, etc. Donc on est quand même dans quelque chose aussi de relativement éphémère. Hein, et ça, c'est des préoccupations, on va dire, poétiques qui se retrouvent dans son travail de danse. Alors, j'ai terminé, j'ai présenté Degas, mais je ne pouvais pas finir Degas sans aborder son comparse ou son complice ou son double ou son diable, c'est Toulouse-Lautrec. Henri de Toulouse-Lautrec, il y a une expo actuellement, si je peux le dire. Donc, si vous avez le temps, allez-y, parce que Toulouse-Lautrec, c'est prodigieux, effectivement. Et en fait, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont proches. Comme si c'était une sorte de part maudite de Degas, comme si Toulouse-Lautrec avait continué l'art de Degas, mais avec une manière beaucoup plus crue, beaucoup plus libre, hein, comme s'il poussait Degas un peu plus loin. Alors il est plus jeune que lui, hein. 20-25 ans avant lui. Vous savez que Toulouse-Lautrec est mort assez jeune, à 37 ans. Alcoolique, crise de délirium tremens, cirrhose, etc. Alors lui, c'est un être qui était marginal d'origine, marginal en tant qu'aristocrate, d'une famille un petit peu fantaisiste, du sud de la France, Toulouse-Lautrec.
Aveyron,
près de Lautrec, le village de Lautrec, c'est dans le Tarn, et puis ça. Et encore son domaine, je crois, etc. Toulouse-Lautrec, en plus, avec des problèmes de santé, puisqu'il a fait plusieurs chutes qui ont interrompu sa croissance. Donc il est resté de petite taille avec un grand torse et des petites jambes, donc original. Il monte à Paris, effectivement, mais il va toujours être à la périphérie. C'est quelqu'un de déclassé, quelqu'un de déplacé. Et au lieu d'être au centre, c'est-à-dire de Paris, c'est pas l'opéra qui l'intéresse, ça va être les personnages aussi, les sites périphériques et marginaux. Ça va être les prostituées, ça va être les cabarets, l'alcool, l'alcoolisme, etc. Donc, c'est vrai qu'il va fréquenter lui aussi toute une bande d'impressionnistes, etc. Mais il a un côté bohème, alors, jusqu'à présent. Si vous voulez, Manet, c'est pas vraiment un bohème, hein. Bertrand Morisot non plus, Marie-Cassatt non plus, même Monet non plus, c'est des artistes des presque classiques. Là, vous avez quelque chose qui force ce qu'on reproche aux impressionnistes, mais on va dire que des gens comme Toulouse-Lautrec, puis ensuite Gauguin, Van Gogh, etc., vont pousser un petit peu, puisqu'on nous reproche ça, et vont fuir d'ailleurs. Hein, et d'ailleurs, vont être poussés vers la périphérie, on verra qu'ils vont même quitter Paris, au sens strict. Donc, si vous voulez, vous avez quelque chose ici qui est, tout en se libérant de plus en plus des normes et en allant expérimenter les pistes, les portes ouvertes de l'impressionnisme, et ils vont les pousser beaucoup plus loin, quelque part. Hein, que ce soit Lautrec, Van Gogh ou Gauguin, entre autres. Alors, regardez d'ailleurs cette femme ici. Il reprend la contreposition V ou en Y de Degas. Il reprend cette idée d'une figure de gauche, avec ici, tchoc, vue. Plonger, vers la gauche, vers la droite, le rapport coloré simplifié en ocre et bleu, ça aussi qu'on avait vu chez Bertrand Morisot, chez Marie-Cassatt, chez Degas parfois, et qu'on retrouve ici, un trait de couleur. Il affirme de façon encore plus forte le lien, le rapport de dessin et de couleur, puisque on peut dire que ici, c'est un travail où il dessine en peignant, il peint en dessinant, où s'arrête le dessin, où commence la peinture, c'est pas évident du tout, la trace, etc. l'intimité, avec cette fois-ci qui est encore plus forcée, avec les bas qui sont à moitié enlevés, cette femme qui nous tourne le dos, qui est assise, on trouve le tube ici, et vous avez effectivement une composition remarquable, avec cette composition donc en V, hein, qui va être typique de tous autres. Alors l'univers des prostituées doit faire une sorte de face cachée de son art, tous autres règles va le faire en l'affirmant très clairement. Le regard un peu différent, y compris sur les corps, il va oser l'affirmer totalement. Lui-même, ayant un corps abîmé, va être dans une certaine complicité avec les prostituées qui vont avoir aussi, eux, elles, des corps abîmés, on peut dire, qui sont dans des lieux particuliers, tout en conservant leur dignité, leur personnalité. Il montre. Et avec cette idée aussi d'une certaine violence, hein, qui va se traduire par les couleurs, par le trait, où on va dire que tous autres traits n'est pas loin d'un certain expressionnisme, en force, regardez la figure ici de gauche, qui est à la limite de la caricature. Hein. Et puis, il y a des choses qui sont très proches de Degas, c'est le travail de dessin de peinture, le héros de peinture blanche, le corps qui émerge sur un papier mitin, etc. Et puis, le travail de composition, des scènes intimes, cette fois-ci, mais on va dire beaucoup plus poussées que celles de Degas, puisque là, y compris, la nudité est exposée, pas uniquement de dos, mais même de face, avec des scènes qui sont incroyables aussi de crudité et en même temps de dignité paradoxale. Chez celle-ci, ça s'appelle la visite. Les prostituées qui sont soumises à une visite médicale, etc., qui semblent aller au boulot, donc avec une dimension un peu humiliation, évidemment. Hein, et en même temps, des portraits, des véritables portraits, qui sont d'une très grande finesse, d'une très grande beauté et vérité sur ces visages, où tout à coup, on sent qu'il y a une sorte de méditation intérieure, de ces visages un peu fermés, hein, avec, et la force qui est donnée aussi, l'audace des couleurs chez Toulouse-Lautrec, qui est prodigieuse. Alors, vous voyez, il y a quelque chose de Degas dans l'occupation de l'espace, parfois des grands gestes, et puis on va ralentir sur le visage, mais là, on est au cœur d'une humanité, hein, on n'est plus uniquement dans des corps, dans des espaces. Chez Degas, il n'y a pas beaucoup de portraits, en fait. Alors que Toulouse-Lautrec va beaucoup plus au trait des individus, hein, des personnes. Parce que lui-même est certainement beaucoup plus questionné en tant que personnage extrêmement hypersensible et, on va dire, tragique. Hein. La tragédie individuelle, il va la saisir de façon beaucoup plus forte, comme par exemple ici. Et la sexualité aussi assumée. Alors, lui, de la même manière qu'on peut dire, Degas vivait quasiment à l'opéra. Eh bien, lui, il vivra quasiment dans les maisons closes. Hein. C'est quelqu'un qui va vivre. Alors, c'est ses copines, hein. c'est ses amis. Et vous avez une sorte de complicité, justement, puisque il partage, si vous voulez, cette idée aussi d'être des gens marginaux, hein, des gens qui sont à la fois méprisés et utilisés en même temps, hein, y compris par une certaine hypocrisie, etc. Donc, alors regardez aussi le travail de Degas, de Toulouse-Lautrec. Regardez cette. Exactement cette même scène traitée de deux façons totalement différentes. Une qui est plus en aplat et en couleur chaude, avec presque pas de modelé, l'autre dans une sorte de camaïeu de rouge, de violet, etc., avec beaucoup plus de modelé. Et les deux fonctionnent. Donc c'est remarquable. Les deux sont prodigieuses. Moi j'ai une petite préférence pour la gauche, le travail de couleur. Là aussi, hein, des scènes, cette fois-ci aussi intimes. De deux prostituées, de deux jeunes femmes, entre elles, en train de discuter. Là aussi, hein, c'est ce monde, univers féminin. Alors, on a suivi l'opéra, on a suivi les maisons closes, etc. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont proches. Et on voit aussi la diversité des pratiques de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec aussi a fait des danseuses. Hein, mais regardez, il n'y a pas du tout la légèreté, hein, cette innocence qu'il y a chez Degas. Cette jeune fille semble à la limite anorexique, l'air épuisé, hein, le tutu chiffonné, beaucoup plus lasse que musclé, hein, et elle aussi, on la trouve presque dans la même posture que les prostituées tout à l'heure, en train de relever son tutu pour ajuster son collant. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus cru, hein, dur dans le corps. Vous connaissez sans doute les Gonchi, les lettres de Gustav Klimt, effectivement. Bah, si vous voulez, on est dans une filiation qui, tout d'un coup, presque expressionniste, qui va voir le corps autrement, qui va le traiter souvent avec aussi cette espèce de ligne de plume ou d'encre un petit peu nerveuse et presque fiévreuse, avec des corps amaigris, hein, qui semblent plus du côté de la maladie que de la vie, hein, de la mort que de la joie. Hein, et cette fois-ci, regardez la façon terrible dont il traite le fou. avec les traces comme ça, les coups de pinceau virtuoses qui sont aussi dans, énergiques, mais un peu dans de la une sorte de rage. Alors le décentrement. Alors il est copain aussi avec les danseuses et les chanteuses, comme Jeanne Avril, que l'on voit ici. Alors j'ai fait exprès de rapprocher deux portraits. L'une où elle est en train de danser, et l'autre où elle se promène toute seule dans la rue, un peu, presque anonyme. Deux figures aussi, où on s'attarde quand même sur le même regard, qui à chaque fois sont un peu mélancoliques aussi. Donc on voit que chez tous autres, il y a un regard sur le corps, mais il y a aussi une espèce de mélancolie. Hein. Alors, le traitement du sol et du décor, je parlais de Gustav Klimt, on en est pas loin. Et puis, alors là, ce que je vous ai dit sur Toulouse-Lautrec, sur Degas, vous voyez que Toulouse-Lautrec utilise de façon radicale le décentrement, passage du premier plan à l'arrière-plan. Mais alors là, ce sont des danses, justement, qui sont des danses un peu bachiques, presque dionysiaques, puisque c'est des trépignations. Le corps n'est pas, on ne s'élève pas, au contraire, on appuie au tas sur le sol, hein, avec des postures du corps. Mais un visage fermé qui est aussi assez émouvant, où on s'attarde aussi sur le corps. Et puis cette façon de tracer à trois coups de pinceau l'espace, hein, toujours oblique, comme on le voit clairement ici. Alors, j'aime beaucoup les portraits aussi de Chahukao. Là encore, vous allez trouver les mêmes problématiques, un petit peu d'une femme clown. C'est son nom, hein, Chahukao. C'était son surnom, hein, comme l'a voulu, donc ça s'est écrit comme ça, Chahukao. Et alors Toulouse-Lautrec va aussi être quelqu'un de très intéressant du point de vue des couleurs. Alors là, on peut dire qu'il pousse le plus loin possible des couleurs pures et saturées, de la manière qu'il va saturer, si vous voulez, son coup de pinceau, qui est presque à la ligne de la caricature, et il va charger la couleur vers des couleurs pures, hein, ces jaunes extraordinaires, les bleus, hein, qui vont. Alors, il s'occupe aussi de ce costume de Chahukao, qui est donc visiblement toujours en jaune. Hein, pour avoir une harmonie de bleu, hein, des couleurs complémentaires, ici les couleurs primaires, mais regarde les visages remarquables, hein, presque tristes, hein, avec une blancheur, là. Et à côté, une sorte de confusion totale, d'explosion, et le thème du clown triste, la clown triste, traité de façon encore prodigieuse. Et puis la liberté, c'est-à-dire que tout à coup, là, vous avez les coups de pinceau, la main qui se lâche d'autant plus qu'elle est capable d'être virtuose. Il est capable de traiter le modelé, le corps et l'espace, et en même temps les surfaces. Hein. Et vous avez, avec Toulouse-Lautrec, quelqu'un qui... Alors, j'ai pas fini, il y en a d'autres. Est-ce qu'ils sont les autres ? Chez les K.O. Là, vous avez encore le cirque Fernando. Donc, vous voyez, on est dans des thématiques qui sont très proches. Mm-hmm. Mais ce n'est pas la légèreté, hein. Ce n'est pas cette espèce de grâce toujours en permanence. On va, chaque fois, retrouver cette même danseuse, hein, mais avec, au contraire, une dimension... Hein, de présence physique de rapport au sol, au corps, à la chair, qui... Ça n'apparaît pas, ma flèche.
Sur la jambe.
Non, je ferme ici, mais tu ne repasses pas. Alors, maintenant, les cabarets. Alors, les cabarets ont cette particularité, je vous parlais du corps et de l'espace, que justement, là, tout le monde est dans le même espace. Il n'y a quasiment plus de scène. Hein. On peut dire que c'est une des problématiques de l'impressionnisme, c'est justement... être dans l'espace que l'on peint, hein. Rappelez-vous que Monet finit par construire le jardin dans lequel il crée l'espace dans lequel il va. Je reviendrai sur l'affaire, mais si vous voulez, Van Gogh finit par mourir dans un champ de blé, et Gauguin, il meurt aux îles Marquises. Être dans le lieu que l'on peint, c'est faire corps avec le lieu que l'on peint. Peindre là où l'on est, c'est quelque chose qui est vraiment une tendance générale des impressionnistes. Et donc aussi, quand on parle d'impressionnisme, c'est pas faux, cette idée qu'on est dans les sensations, on n'est plus uniquement dans le visuel, mais pas dans un spectacle, on est vraiment dans l'espace que l'on travaille. D'où cette circulation d'ailleurs du regard, parce qu'on peut rentrer, sortir, etc. Ces jeux-là font que on est en permanence dans cette problématique-là. Alors, les jeux de lumière, puis alors la liberté d'inachever, on voit ici Valentin des Auxerres à droite et la Goulue qui se désosse complètement, où là, Toulouse-Lautrec invente avec une liberté de les jeux d'ombre et de lumière, d'espace, de s'arrêter quand il veut, effectivement, de cette liberté qui est dans les corps et dans les danses, et bien Toulouse-Lautrec, là, dans sa peinture, de façon effectivement totalement lumineuse, presque comme des pieds de nez, hein, comme des cabrioles, comme quelqu'un, effectivement. La liberté de danser dans les cabarets, Et un peu le pendant de la danse de l'opéra, c'est de la grâce, mais c'est extrêmement codé et sophistiqué. Et si vous voulez, de la même manière qu'on va trouver la liberté de danser dans les cabarets, ben, la peinture aussi se libère complètement, et on est là, on déconstruit réellement les règles de l'art, tout en montrant qu'on est dans une virtuosité totale. De la même manière que les danseuses, comme la Goulue par exemple, sont certainement de très grandes virtuoses de la danse. Alors, il y a certains... Alors ça c'est une des rares de tous les autres règles où on voit la danse, on va dire classique, hein, mais qui semble traiter de façon presque plus sauvage, avec ici les mains, une confusion totale assez joyeuse. Hein, ce n'est pas du tout la grâce de là. Et là, vous voyez les influences aussi japonisantes, où là, tout d'un coup, il n'y a presque plus de modelé, on a des surfaces, des contours, des lignes et des arabesques. Alors, avec des corps, comme on les voit ici. Alors, je crois qu'il y a encore d'autres. Alors, les scènes aussi, comme par exemple ici, le dîner chez les Matançons, là, et vous voyez là, la rupture aussi dessin-peinture, hein, c'est clair. L'espace, où tout d'un coup, vous avez le fond de sa peinture traité en terre de sienne quasiment, ici, qui unifie les objets qui apparaissent presque comme des signes. Si en ce sens-là aussi Toulouse-Lautrec annonce quelque part Matisse ou Picasso, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de tout dire, on peut suggérer par des signes. L'ambiance n'est plus donnée uniquement par la lumière, l'ombre, les couleurs, mais par justement un fond qui va faire baigner ces figures qui émergent. Regardez où tout d'un coup vous avez une tête, une main, puis on les relie, alors que rien ne les relie. Là vous avez un trait qui vraisemblablement évoque le bras de ce personnage en profil perdu. Et vous avez donc une sorte de construction d'espace avec des bribes qui vont reconstruire un espace. Là encore, Toulouse-Lautrec, sur cette dimension éclatée comme ça, réunie par la couleur, où tout est dit, hein, la surface, le geste, le modelé, la transparence, le reflet, l'instant, la profondeur de champ, le premier plan.
Excusez-moi, comment ça s'appelle ?
Alors ça, c'est un dîner chez les Natançons. La famille Natançons, c'était des collectionneurs qui sont très importants dans le milieu impressionniste, qui étaient amis de presque tous les impressionnistes. Alors, Toulouse-Lautrec aussi. Alors, vous avez aussi des choses qui sont toujours proches de Degas, hein, oblique, construction avec la chaise, les visages en contreposé éclairés par en dessous, etc. Mais là, on voit cette espèce de l'ambiance des cabarets telle qu'on pouvait la voir. Alors, ces cabarets, ces cafés, etc., cette façon de regarder aussi l'espace, regarder autrement, on l'a chez Manet aussi, de façon très intéressante. Manet est plus sage, plus rigoureux, plus méthodique, on peut dire. Hein. Regardez par exemple, mais aussi ce regard sur dans des lieux, dans des espaces bien particuliers. Voilà trois scènes peintes par Manet. Alors là encore, je crois que j'ai fait un effet de... d'écrasement. Hein. celle de gauche est un peu trop écrasée. Donc on va l'étaler un peu. Et à chaque fois, vous avez une serveuse de boc. Une serveuse de boc, et vous avez la scène qui est derrière. Hein. Vous avez un premier plan avec des spectateurs. Vous avez le vrai sujet, c'est la femme qui sert les boc. Et derrière, vous avez la scène, théoriquement, du spectacle qu'on semble à peine apercevoir. Ici, on la voit à peu près. On voit une tête, on voit la lumière. Là, on voit une danseuse qui semble sortir. Et là, on voit plus que le bras. Vous avez aussi cette idée que la serveuse de boc ici, personne ne la voit, la preuve, elle voit son boc, puisque personne ne la voit. Donc, c'est quelque part la preuve que personne ne la voit, puisqu'elle peut finir un boc de bière tranquillement. Vous avez la deuxième scène ici, où elle s'assied, elle a les bocs, etc. Elle regarde ailleurs. Et la troisième, où tout à coup, elle a vu qu'elle était vue. Tout à coup, le regard s'arrêtait sur elle, hop, tiens, on va vite, tiens. Resserré, recadré. Donc Manet, vous avez vu, travaille pour donner l'impression d'un instant bref, volé, saisi, surpris. Mais vous avez vu que c'est une construction. Donc vous voyez que des préoccupations de Manet, on l'a vu tout à l'heure avec Degas, cette idée de choisir des points de vue, de choisir des cadres, de porter son regard là où personne ne le regarde, parce que tous les autres regardent ailleurs. Sauf Manet, Et y compris cette manière qui est commune à Degas, à Toulouse-Lautrec, à Manet, par exemple, à Bercourt-Rizot et à Eva González et aussi Marie Cassatt, d'avoir une sorte de gestualité pour les sens et puis se ralentir au niveau du visage, hein, comme si tout d'un coup il y avait tête à tête, un face à face, dans un espace qui devient un peu sensible, brouillon, brouillé, impressionniste, justement, avec une gestualité qui est différente. Alors, si je zoome sur la dernière, qui est peut-être la plus achevée, parce que c'est la plus simple, en fait, voilà, c'est honteux de ma part, c'est vraiment déformé. Rajouter, l'écarter, il faudrait que je fasse un peu attention. Mais le travail de Manet aussi sur le premier plan, le modelé, et les rectangles, la composition rectangulaire qui est derrière, on l'avait vu avec la prune, hein, cette structure orthogonale qu'on voit souvent chez Manet, et puis d'un coup quelque chose qui vient rompre. Elle se redouble d'un travail de couleur qui est très subtil, toute la partie basse donc, dominante bleu et ocre, hein, et la partie haute étant dominante bleu, rouge et vert, c'est-à-dire les couleurs complémentaires. Vous voyez que c'est, là encore, il y a chez Manet aussi des recherches de couleurs, hein, d'espace, de gestes, de couleurs, qui sont tout à fait proches de celles de Degas, de celles de Toulouse-Lautrec, de Bercourt-Rizot, etc. Donc voilà un petit peu pour les recherches contemporaines de celles de Toulouse-Lautrec et Degas. Ça, on l'a vu l'autre jour. Hein. Bon, ça, je ne sais pas pourquoi je vous l'ai montré. Alors, c'est cabaret, hein. On revient à Toulouse-Lautrec, c'est pour vous montrer un petit peu cet univers. Toulouse-Lautrec, regardez aussi ses compositions, ses personnages de cabaret, ces lieux qui sont un peu interlope, où tout le monde se mélange, y compris les artistes, cette espèce de bohème, ce décentrement. Et c'est pour ça que je fais exprès d'utiliser ce terme-là, parce que le décentrement dans la vision, c'est aussi un décentrement par rapport à Paris. Hein. En fait, c'est plus les quartiers centraux, c'est la périphérie, et puis par la suite, ils vont donc quitter Paris. Donc cette idée de mouvement, aller ailleurs, voir ailleurs, regarder autrement, c'est toute une sorte d'éthos, hein, de comportement des impressionnistes qui correspond à une modernité, hein, pour s'échapper du 19e siècle, construit, centré, ordonné, contrôlé en permanence, etc. Compris, moral, etc. Là, vous voyez exactement Toulouse-Lautrec qui utilise systématiquement la construction en V ou en Z ou en Y que je vous ai montré chez Degas, hein, y compris les tables et les dominos, etc. Et avec, y compris les rapports colorés à chaque fois, etc. Par ces personnages. Ça, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, c'est quasiment. Ben voilà, parce que c'était fini. C'était un Degas, mais j'ai juste trouvé ça, c'est un étang.
C'est un étang.
On voit l'étang et on. Mais je n'avais pas assez de documentation sur le
petit. Voilà.
Donc voilà un petit peu Degas, Toulouse-Lautrec. Alors vous avez vu que Manet, je le présente en morceaux. Évidemment, on l'a vu avec Bercourt-Rizot, on l'a vu aussi avec un petit peu avec Tuki, on le voit ici. On le verra aussi avec Gauguin, etc. Hein, donc, voilà. Alors, juste, parce que c'est presque l'heure, je vais commencer le prochain cours donc, avec quelqu'un qui est important, c'est donc, évidemment, Camille Claudel. Hein, Camille Claudel, donc, on revient un petit peu à ce que je vous ai dit sur... J'essaie de montrer aussi la place des femmes, soit comme modèle, soit comme actrice, comme artiste. Hein. Et sur l'œuvre de Camille Claudel, sur laquelle je vais démarrer la semaine prochaine, c'est notamment une qui est bien particulière, qui s'appelle Les Causeuses, qui est effectivement cette petite sculpture de marbre verte, que je trouve assez hallucinante, qui est d'une puissance et d'une force prodigieuse, et dans laquelle, si vous voulez, ça fait juste la transition, on retrouve toujours cette idée aussi d'un lieu. Hein, d'une composition aussi, un peu en V, dans laquelle on peut... Alors là, on va rentrer par le regard, mais aussi une intimité. Femmes entre elles, de différentes manières, ça peut être la danse, ça peut être les prostitutions, ça peut être les cabarets, ou ça peut être ici, ces causeuses, etc. On avait aussi un univers féminin qui est vu autrement, vu par une femme, et puis alors, autour de Camille Claudel, vous aborderez évidemment Rodin, qu'on a vu un peu avec Degas, et on verra des choses qui sont du monde, et puis aussi un regard différent bah, sur le corps, sur l'espace, Camille Claudel, des choses, des préoccupations où on voit qu'elle est parfaitement, non seulement de son temps, mais même largement dans les préoccupations théoriques. Au-delà de la vie tragique, il y a aussi une artiste qui est presque conceptuelle et une virtuose prodigieuse. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, vous pouvez aller à Nogent-sur-Seine, son musée, il est très beau. Hein. c'est à 1h30.
Une heure et demie.
Donc voilà, donc je pense la semaine prochaine, Capitonelle, je déborderai peut-être que...